Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le monde aujourd'hui, Abdourahmane Dia, la présentation de cette édition de 19h30 ans universel. Nous sommes lundi 7 août 2017 au sommaire. Situation tendue à Kinshasa où des coups de feu ont retenti dans plusieurs quartiers. La police fait état de 12 morts. Élection générale au Kenya demain. 8 candidats pour le fauteuil présidentiel, dont le sortant Uhuru Kenyatta et son rival Raila Odinga. Nouveau vote de défiance au Parlement sud-africain contre Jacob Zuma prévu demain. Les députés vont voter à bulletin secret. Un navire affrété par des mouvements d'extrême droite européens bloqués au large de la Tunisie. Et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. De nouveaux troubles ont secoué la capitale congolaise ce lundi. Selon le porte-parole de la police, 12 personnes ont été tuées dans une vague de violence dans plusieurs communes de Kinshasa. Sur place, retrouvons Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire.
Dans plusieurs quartiers de la capitale, des groupes de manifestants portant des bandeaux rouges autour de leur tête et scandant des chants hostiles au pouvoir ont provoqué une panique qui a très vite gagné plusieurs communes. Des policiers sont vite arrivés en renfort et des tirs ont par la suite été entendus à de nombreux endroits, comme à Selembao. Pour ce qui est du bilan, le colonel Piero Mwanamputu parle de 12 morts, dont 4 assaillants à Sainte-Thérèse, 2 au marché de Liberté à Massina, 1 à Matete et 5 autres au niveau de Selembao. Le porte-parole de la police signale également le lynchage de 2 officiers de la police qui sont, selon lui, dans un état très critique. Situation tendue également au Congo central où les assaillants à Boma se sont dirigés jusqu'à la mairie avant d'être dispersés. Bilan, 2 morts à Matadi et 3 personnes grièvement blessées. Ces attaques interviennent à l'expiration ce lundi 7 août 2017 de l'ultimatum lancé aux autorités de la RDC par Nemo Nansemi pour qu'il quitte le pouvoir. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, 5 prisonniers se sont évadés hier de la prison de Gagnoa, dans le centre du pays, à la veille de la fête de l'indépendance célébrée aujourd'hui. Le maire de la ville les qualifie de dangereux bandits. Ils avaient braqué un commerce il y a 3 mois en emportant une forte somme et ils venaient d'être condamnés à 20 ans de prison, selon le maire. 4 gardes pénitentiaires et un civil ont été arrêtés, soupçonnés de complicité. Des manifestants se sont rassemblés à Abuja pour demander le retour ou la démission du président nigérien Muhammadu Buhari à Londres depuis 3 mois pour des raisons médicales. Plusieurs dizaines de personnes, à l'appel des associations de la société civile, ont bravé les fortes pluies et marché jusqu'à la résidence présidentielle avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Revenez ou démissionnez, trop c'est trop ». Les parlementaires sud-africains vont voter demain mardi à bulletin secret la motion de défiance contre Jacob Zuma. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
La présidente du Parlement, Baleka Mbete, a décidé d'un vote à bulletin secret. La haute cour de justice saisie par l'opposition avait dit que la décision revenait à la présidente du Parlement. L'opposition espère ainsi obtenir les voix de certains députés de l'ANC s'ils ne sont pas sous la pression d'un vote à main levée. La motion de défiance doit être votée à la majorité simple avec 201 députés sur les 400 que compte le Parlement. L'ANC possède une confortable majorité de 249 sièges. Le Parti communiste, dont les députés sont membres du groupe parlementaire de l'ANC, a réitéré son appel à la démission du président Zuma, mais n'a pas donné de consigne de vote. Jacob Zuma, dont le second et dernier mandat expire en 2019, a déjà survécu à 3 motions de défiance. Si la toute dernière est adoptée ce mardi, le président Zuma et son gouvernement devront démissionner.
Un membre du gouvernement sud-africain a présenté ses excuses après avoir agressé une femme dans une boîte de nuit de Johannesburg. Je veux présenter mes excuses sans réserve à Madame Bandisa Duma, sa famille, le gouvernement sud-africain et tous les Sud-Africains et toutes les femmes en particulier, a déclaré le vice-ministre de l'Éducation, Buduzi Manana, dans un communiqué. Le ministre de la Police, Fakile Mbalula, a qualifié ces accusations de préoccupantes et demandé une enquête complète sur cette affaire. En Mauritanie, le oui l'a largement emporté lors du référendum constitutionnel de samedi avec 85% des voix. Le taux de participation s'élève à 53,73%, mais l'opposition refuse de reconnaître ces résultats. Quelque 1,4 million de Mauritaniens étaient appelés à se prononcer, notamment sur le remplacement du Sénat par des conseils régionaux, une modification du drapeau national auquel seraient ajoutées deux bandes rouges pour valoriser le sacrifice des martyrs de la résistance à la colonisation française qui s'est achevée en 1960. Une coalition de 8 partis et organisations avait appelé au boycott du scrutin. Les Kenyans se rendent aux urnes demain pour élire leur futur président. Cette présidentielle est couplée avec les législatives et les élections locales. L'incertitude plane sur le déroulement alors que le président Uhuru Kenyatta appelle à un scrutin apaisé. Eric Manirakiza.
De nombreux Kenyans se préparent au pire. Certains ont pris d'assaut les supermarchés pour faire des stocks. D'autres ont déjà quitté Nairobi. Le duel serré entre le président sortant Uhuru Kenyatta et le leader de l'opposition Raila Odinga a exacerbé les craintes de violence. Le déploiement annoncé de quelques 180 000 membres des forces de l'ordre pour assurer la sécurité du vote n'est pas forcément de nature à rassurer tout le monde. L'assassinat d'un haut responsable chargé du système informatique à la commission électorale a renforcé la peur. Des tracts contenant des messages de haine ont circulé et les deux candidats ont accusé leur adversaire de pratiques déloyales car chacun considère que la victoire ne peut que lui revenir. La contestation des résultats en 2007 avait fait plus de 1000 morts.
Au Soudan du Sud, l'armée a pris la ville de Pagag dans l'est, principal bastion des forces rebelles. Après deux semaines de combats opposant l'armée fidèle au président Salva Kiir aux forces loyales au chef rebelle et ancien vice-président Riek Machar, qui ont débuté début juillet dans cette région proche de l'Éthiopie, forçant des milliers de civils à fuir la région.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Sea Star, c'est ce navire affrété par des militants européens d'extrême droite pour lutter contre l'arrivée de migrants en Europe, a été bloqué ce lundi au large de la Tunisie. Un puissant syndicat tunisien a appelé à empêcher son ravitaillement. Le point avec Chérubin Dorsil.
Le syndicat UGTT, prix Nobel de la paix 2015, et trois autres organisations ont lancé un appel à tous les agents et employés des ports à ne pas permettre au bateau du racisme Sea Star de souiller les ports de la Tunisie. Les militants allemands, français et italiens à bord de ce navire étaient lundi à la lisière des eaux tunisiennes au sud-est de Sfax. Dimanche, des pêcheurs se sont mobilisés à Zarsis, plus au sud, contre l'accostage du bateau. Loué à Djibouti par le groupe d'extrême droite Génération Identitaire, grâce à une collecte de 200 000 dollars, ce navire de 40 mètres a rencontré des difficultés avec les autorités au canal de Suez en Égypte et à Chypre. Ensuite, le bateau a été empêché d'effectuer un ravitaillement en Grèce avant de longer les côtes libyennes. Ces militants d'extrême droite veulent empêcher l'arrivée de migrants en Europe. Leur navire arbore deux immenses banderoles proclamant en anglais « Stop au trafic d'êtres humains » et « Vous ne ferez pas de l'Europe votre foyer ».
Aux États-Unis, la ville de Chicago a porté plainte contre l'administration de Donald Trump qui menace de supprimer des financements aux villes dites sanctuaires car refusant de livrer leurs sans-papiers à la police de l'immigration. La troisième plus grosse ville américaine s'est engagée à protéger les étrangers en situation irrégulière, s'opposant ainsi à la politique fédérale. Pour forcer ces villes à respecter la législation sur l'immigration, le président républicain a signé un décret visant à les priver de fonds fédéraux. Le roi Abdallah II de Jordanie a délivré à Ramallah un message de soutien aux Palestiniens et appelé le président des États-Unis à intensifier ses efforts dans le processus de paix en panne depuis plusieurs années. Il s'est rendu en Cisjordanie occupée pour la première fois depuis 2012. Un tribunal a révoqué la nationalité d'un arabe israélien auteur d'un attentat à la voiture Bélier et d'attaque au couteau. Il est le premier à se voir appliquer une loi de 2008 sur la nationalité. La révocation de sa nationalité entrera en vigueur le 31 octobre, ce qui lui laisse le temps de faire appel. Une force d'élite yéménite a pris le contrôle de Chabwa et des sites pétroliers de cette province du sud d'où les combattants d'Al-Qaïda se sont retirés. Le Pentagone a indiqué vendredi que des membres des forces spéciales américaines aident les Émiratis et des troupes locales dans leurs opérations contre Al-Qaïda au Yémen. Deux hommes ont été condamnés à Hong Kong à 3 ans de prison pour émeute lors de violentes manifestations anti-chinoises survenues en 2016. Ils étaient accusés d'avoir participé aux incidents du 9 février 2016, une manifestation de soutien à des marchands de cuisine de rue que les autorités voulaient faire déguerpir alors avait donc dégénéré. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Nathalie Barge.
Côte d'Ivoire, 232 milliards de francs CFA ont été payés à près de 4000 entreprises afin de régler la dette intérieure du pays, a confirmé dimanche le président Alassane Ouattara à la veille de la fête de l'indépendance. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly avait révélé le mois dernier le décaissement de cette somme au cours d'une rencontre avec des chefs d'entreprise. Nigeria, la société pétrolière Shell, indique avoir remis 10 millions de dollars à l'agence chargée de la restauration des sites après une pollution de la zone d'Ogoni dans l'état de Rivers. Le directeur de la SPDC, Igo Welly, a souligné que 15 sites avaient été remis en état et que les normes sur les méthodes d'assainissement avaient été relevées conformément aux meilleures pratiques dans le secteur pétrolier. Plusieurs scientifiques africains prennent part à la Conférence mondiale des humanités qui a débuté dimanche jusqu'au 12 août à Liège, en Belgique. Organisée par l'UNESCO, cette conférence s'articule sur des thèmes comme l'homme et l'environnement, le patrimoine culturel, la migration et les sciences humaines dans un monde en transition.
À présent, la page des sports avec Nicolas Pinot. Nicolas, bonsoir.
Et bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
On démarre par la CAF qui officialise le changement de formule pour les éliminatoires de la CAN 2019.
Et vous vous souvenez de la décision du comité exécutif de la CAF de passer de 16 à 24 le nombre de sélections qualifiées pour chaque Coupe d'Afrique des Nations. Eh bien, les deux premiers de chaque groupe en qualification seront à présent qualifiés lors de la phase finale de la CAN 2019. Seul le groupe où évoluera le Cameroun, pays organisateur désigné, enverra un seul qualifié en phase finale. Une décision très contestable sur le plan juridique comme sportif, puisque la règle du jeu se trouve modifiée alors qu'une journée de poule a déjà été disputée en juin dernier. Et puis, nouveau développement dans cette affaire, puisque ce week-end, lors de sa visite à Ouagadougou, le président de la CAF, Armat, a laissé entendre que le Cameroun n'était pas prêt pour abriter cette compétition continentale. Il a indiqué qu'une visite d'inspection composée des experts et d'un cabinet d'audit spécialisé va évaluer si l'organisation de cette CAN 2019 sera maintenue au Cameroun. Soulignons qu'une demi-douzaine de pays se sont déjà placés en cas de défaut du Cameroun, notamment le Maroc et l'Algérie.
Le Barça est plus grand que Neymar, selon son président.
Aucun joueur n'est au-dessus du Barça, y compris Neymar, a estimé ce lundi le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, 4 jours après le transfert de l'attaquant brésilien au Paris Saint-Germain. Pour un montant record de 222 millions d'euros, la clause de cession de la star brésilienne aurait atteint 250 millions d'euros s'il avait entamé une troisième année au Barça.
Pour Wilfried Bony, le prix est fixé.
Alors que le nom de l'attaquant international ivoirien de Manchester City est évoqué dans plusieurs clubs, les Citizens réclameraient un peu plus de 14 millions d'euros pour le lâcher. C'est ce que prétendent nos confrères du Sunday Mirror. Le natif de Bargerville serait notamment dans le viseur des dirigeants marseillais.
Real Madrid, Manchester United, belle affiche de la Supercoupe d'Europe demain soir.
Le Real Madrid de Zinedine Zidane, double tenant de la Ligue des Champions, tentera de conserver également la Supercoupe d'Europe face à Manchester United de José Mourinho. Ça se jouera demain soir à Skopje en Macédoine. Cristiano Ronaldo a été inclus dans le groupe du Real Madrid et c'est une surprise. Il n'a repris l'entraînement que samedi de retour de vacances prolongées après la Coupe des Confédérations en Russie où le Portugal avait terminé 3e.
Les mondiaux d'athlétisme à Londres.
Avant les épreuves de ce lundi, l'Afrique est toujours sur le podium des médailles. À suivre ce lundi, les séries du 200 mètres avec l'étoile sud-africaine Van Niekerk, le Congolais Kabongo Moulumba ou l'Ivoirien Wilfried Kofi Ouah et le Togolais Fabrice Dabla, le Nigérian Tosin Oké aux qualifications du triple saut. On n'oubliera pas également la finale du 1500 mètres dames qui, pour battre Kenzebe Dibaba l'Éthiopienne, la Sud-Africaine Caster Semenya sera de la partie.
Merci beaucoup Nico.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Les États-Unis se disent troublés par des irrégularités observées lors du scrutin présidentiel au Rwanda et réitèrent leurs inquiétudes sur l'intégrité du processus de totalisation des votes. Le président Paul Kagame a été réélu pour un troisième mandat de 7 ans avec plus de 98% des suffrages. Idriss Fall a recueilli la réaction de Brian Newbert. Il est un des porte-parole du département d'État américain.
Tout d'abord, les États-Unis veulent féliciter le peuple rwandais pour avoir voté. Ce qui est important à noter, certainement, il y avait des irrégularités, y compris en ce qui concerne la certification des candidats, où il y avait un manque de transparence. Les États-Unis notent également, sur le plan législatif, c'est prévu que la loi électorale sera augmentée et donc nous espérons que certains problèmes pourraient être résolus dans ces discussions à l'avenir.
Est-ce que ça remet en cause la validité de l'élection de Paul Kagame?
Je pense que les médias sur le terrain ont eu l'opportunité à noter, rapporter sur ces questions des irrégularités. Je pense également que c'est quelque chose qui devrait être étudié. Donc, je dirais qu'il y a une certaine transparence dans les médias, même membres du gouvernement, membres du comité organisation électorale, ont mentionné publiquement certaines plaintes qui vont être étudiées. Je crois que ça, c'est très important.
Les États-Unis félicitent le peuple rwandais et ne félicitent pas Paul Kagame. Pourquoi ?
Non, je ne dirais pas nécessairement comme ça. Ça vient de passer il y a 2-3 jours. Bien sûr, notre ambassadeur, notre ambassade à Kigali travaille étroitement en coopération avec le gouvernement rwandais dans plusieurs domaines. Et donc, si nous parlons d'une démocratie, d'une élection, notre priorité, c'est féliciter les peuples eux-mêmes. Donc, qui ont exprimé, qui ont eu l'opportunité à exprimer leur volonté. Mais notre travail avec nos partenaires au Rwanda continue.
Le peuple, 98%, c'est quand même énorme. Hein?
Oui, donc comme les États-Unis ont dit déjà, certainement il y a certaines irrégularités. Et c'est pour le peuple rwandais et pour le gouvernement rwandais étudier et travailler pour améliorer et faire une sorte plus transparente de leur système électoral et leur système démocratique.
C'était Brian Newbert, porte-parole du département d'État américain.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
Au Tchad, le mouvement patriotique du salut au pouvoir célèbre demain l'an 1 du 5e mandat de son président fondateur Idriss Déby Itno. Arrivé au pouvoir par coup de force en 1990, Idriss Déby Itno a été réélu pour la 5e fois consécutive en avril 2016. Notre correspondant André Kolmajingar nous parle de la perception des Tchadiens sur le 5e quinquennat du président Déby.
Réélu en avril 2016 à l'issue d'une élection présidentielle fortement contestée par 6 partis politiques de l'opposition en compétition, Idriss Déby Itno a été investi le 8 août 2016 sur fond de crise socio-économique et politique pour un mandat de 5 ans. Idriss Déby Itno a, dès l'entame de son nouveau quinquennat, fait une promesse à la jeunesse tchadienne désœuvrée d'une opportunité d'emploi.
Jeunesse tchadienne, je mesure pleinement l'ampleur de vos attentes. Je comprends les angoisses et les incertitudes qui vous habitent. Mais j'ai surtout foi à notre capacité commune à briser toutes les entraves à l'accomplissement de nos ambitions partagées. En retour, vous pouvez avoir foi en ma détermination résolue à apporter les réponses appropriées aux préoccupations qui vous animent et qui m'engagent. Vous offrir une éducation, une formation de qualité. L'entrepreneuriat des jeunes sera développé et l'accès à l'emploi, tant public que privé, continuera d'être soutenu.
Trois semaines seulement après cet engagement devant les autres chefs d'État africains et les diplomates accrédités au Tchad, la foi du président Déby a volé en éclats. Car au cours d'un conseil des ministres le 31 août 2016, il a été décidé dans les 16 mesures d'austérité de revoir les critères d'attribution des bourses des étudiants de l'intérieur. Mais l'on est passé finalement à la suppression pure et simple de cette bourse d'études. Les lauréats des différentes écoles professionnelles en instance d'intégration prennent au mot le chef de l'État.
Monsieur le Président n'est pas un vulgaire d'homme, donc il doit honorer quand même sa parole. Ça fait 25 ans qu'il nous tient toujours de pareils propos, mais au terrain on ne voit rien. Est-ce que ça vient de lui ou c'est ses collaborateurs, ceux qui sont tout autour de lui, qui sont vraiment le mot de nos problèmes.
Dans le secteur privé, il y a une précarité de l'emploi. L'entrepreneuriat qui pouvait donner le souffle à la jeunesse tchadienne. Nous assistons aujourd'hui à l'effondrement de ces institutions d'octroi de crédit. Nous avons frappé à plusieurs portes. Même le chef du gouvernement refuse d'écouter les jeunes diplômés, ce qui est vraiment écœurant.
Pour le chef de l'opposition politique Saleh Kebzabo, il serait difficile d'évaluer la honte de Déby dont il conteste toujours la victoire.
Nous continuons de dire qu'il s'agit d'un hold-up électoral. En dehors de quelques Tchadiens privilégiés qui font peut-être partie de la famille présidentielle qui, eux, n'ont pas de problème, mais la jeunesse, elle est désœuvrée, elle est abandonnée. Partout où il a fait des promesses, c'est l'échec le plus total.
André Kotumadjingar Ndjamena, VO Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Lancement demain à Lomé du Forum 2017 de l'AGOA, cette loi américaine qui permet aux pays africains éligibles d'exporter vers les États-Unis sans droit de douane. Les entrepreneurs togolais sont ravis de cette opportunité, comme Kiyou Sama. Il est chef de projet pour une société togolaise et c'est la première fois qu'il participe à ce Forum de l'AGOA.
J'assiste à ce forum pour avoir des informations par rapport aux opportunités que les États-Unis offrent à notre continent et en l'occurrence au Togo. Parce qu'au niveau de notre structure, nous intervenons dans la production, la transformation et la distribution. Et si les États-Unis peuvent être un marché potentiel pour nous, producteurs africains, ben ça serait une bonne opportunité pour nous.
Qu'est-ce que vous essayez concrètement de vendre, d'exporter comme produit aux États-Unis ?
Disons que notre principal produit que nous voulons vendre, c'est notre plateforme. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est à travers ces dérivés, parce que la plateforme permet à ses utilisateurs d'avoir pas mal d'avantages. Ça permet à la production que nous organisons suivant notre système et ça nous permet d'avoir une bonne productivité et tout. Donc nous voulons avoir le partenariat avec des entreprises de fourniture de matériel, que ce soit informatique et tout, que ce soit dans les productions agricoles, que ce soit dans tous les domaines, parce que nous sommes, disons, dans la production, la transformation et la distribution. Donc nous cherchons à avoir des partenariats un peu partout, et surtout venant des États-Unis.
Alors, vous avez assisté au tout premier moment de l'AGOA aujourd'hui, c'était l'ouverture. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Qu'est-ce que vous pouvez nous en raconter?
Et disons que nous, au niveau de la participation de ESMC côté entreprise, c'est de voir dans quelle mesure on peut avoir des partenaires. Donc ce soir, nous allons participer au cocktail comme prévu. Et lors du cocktail, nous allons essayer d'échanger avec les autres participants pour leur exposer notre plateforme, notre idéologie et tout, et voir dans quelle mesure les uns et les autres peuvent contribuer pour son émancipation à nos côtés.
Est-ce que vous attendez aussi de faire du networking avec d'autres entrepreneurs togolais ou africains?
Oui, bien sûr, parce que seul on ne peut pas aller loin. C'est vrai, on va vite, mais ensemble, on va vraiment loin. Et l'idée, c'est de voir dans quelle mesure mettre notre innovation au service de tout le monde, afin que ça puisse profiter à notre continent.
C'était Kiyou Sama, chef de projet pour la société ESMC au Togo.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Au Cameroun, c'est ce week-end que s'est achevée, après 4 jours, la toute première édition du Festival des musiques et danses patrimoniales du pays. Organisé par le ministère des Arts et de la Culture, l'événement a attiré un grand nombre de visiteurs et de très populaires groupes de danse traditionnels du Cameroun. De Yaoundé, le reportage de Jules-Emmanuel Tap.
Le patrimoine culturel du Cameroun en matière de danse, musique et tenue traditionnelle a captivé un large public sur le site du musée national à Yaoundé. Au terme du festival, un sentiment de satisfaction générale. Professeur Raymond Assomban, directeur du musée national.
Il y a au moins 4000 personnes ici. Il fallait faire ceci pour que les Camerounais comprennent qu'ils sont un et indivisibles. L'unité dans la diversité. Et c'était donc l'objectif de ce festival.
L'unité des Camerounais dans la diversité culturelle, oui. Mais le festival a davantage été un rendez-vous pour se ressourcer aux valeurs traditionnelles pour plusieurs visiteurs du site du festival.
Il y a vraiment la manifestation culturelle d'un autre genre que nous ne vivons pas tous les jours.
Bah, je suis venu comme tout le monde pour découvrir le riche patrimoine camerounais. Et nous voyons de très bonnes choses. Et la culture camerounaise est extrêmement riche et elle mériterait à être bien connue.
Et je suis là avec mes enfants parce que eux, ils doivent voir de quoi est constitué cet ADN. C'est l'ADN, c'est ce qui fait quelqu'un et c'est donc très important pour la vie.
Les jeunes Camerounais sont aussi venus découvrir le patrimoine culturel d'antan. Certains n'ont pas caché leur fascination au regard du riche trésor culturel mis à découvert à l'occasion.
On a vu beaucoup de danse. La danse des bêtises, la danse de plusieurs groupes de danse.
C'est la première fois que tu découvres cette danse?
C'est la première fois. J'ai bien aimé.
Ce que le Cameroun compte de meilleur dans l'art de la sculpture, des instruments de musique ou de la confection de tenues traditionnelles de danse a aussi fait l'objet d'expositions durant le festival. Parmi les exposantes, une originaire du Nord-Ouest, en zone anglophone du Cameroun, Princesse Boutigny.
Vous voyez la plupart des objets ici, là, ça parle de la musique. De l'autre côté, vous voyez les colliers de plusieurs qualités et de plusieurs couleurs. C'est ce qu'on porte lors du festival. Tous les sacs que vous voyez, on utilise ça pour aller dans les festivals. Vous pouvez regarder de l'autre côté, vous voyez les objets d'art. Vous voyez les femmes en train de taper, les hommes en train de taper, les sifflettes et le costume traditionnel.
Au total, les 4 aires culturelles du Cameroun ont été représentées au premier festival des danses et musiques patrimoniales, offrant un spectacle de soir au village, en pleine capitale, devant un public de citadins très admiratifs. Emmanuel Jolutap, Yaoundé, VOA Afrique.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-92-40. Je répète, 225-58-92-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Michel Joseph. À la console, Bill Barber. Présentation, Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bangui, sur 101.7 FM. Sabari FM, Bamako. Golf FM, Cotonou. Milo FM, 99.5, Cancan, Niger. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.